Vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Dans le cadre de notre série Rêves Olympiques, nous vous proposons aujourd'hui le portrait d'une famille entière de nageurs. Mais d'abord, voici les coulisses de la confection du bulletin de notes des ministres que vous pourrez découvrir ce week-end dans le journal et sur notre site. Je m'appelle Sarah Saadi Garcia. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
À quelques mois des élections, quel bilan tirer de l'action des ministres ? Les journalistes du Soir se sont concertés pour donner des notes à l'ensemble des membres du gouvernement fédéral et des entités fédérées, un travail qui se fait en plusieurs étapes et qui demande forcément une vraie méthodologie. Bernard de Monti, chef du pôle politique, et Véronique Lamquin, journaliste au pôle international, sont venus tous les deux en studio pour nous expliquer la démarche et la manière dont ils ont procédé pour décerner ces bulletins aux ministres. Bonjour Véronique et bonjour Bernard.
Bonjour Sarah.
Bonjour Sarah.
Revenons tout d'abord sur ce bulletin des ministres. Concrètement, qu'est-ce que c'est ?
Bien, on va se livrer à un exercice périlleux qui consiste à évaluer, un peu comme à l'école, les ministres des différents gouvernements. On va d'abord commencer par le fédéral et puis on suivra par les entités fédérées. Donc vraiment, on va dire ce qu'on pense de chaque ministre et du premier ministre et des ministres présidents. Et on va même pousser le bon goût jusqu'à leur donner une cote. Et comme ça, les citoyens, les citoyennes pourront voir ce que la rédaction du Soir pense des ministres sortants, puisque, comme on le sait, les gouvernements vont bientôt cesser leurs activités dans la perspective des élections du 9 juin.
Justement, le fait de donner des cotes, pourquoi est-ce que cet exercice est important selon vous ? Est-ce que le fait d'avoir ces cotes, ça permet de faire un bilan plus clair de l'action du gouvernement ?
Voilà, c'est un bilan même tranché, j'allais dire. On peut donner des impressions, faire des analyses, mais on avait envie d'être un peu plus percutant. Aussi, de faire quelque chose de tout ce travail qu'on a fait pendant plusieurs années. Hein. Tous les journalistes du Soir ont suivi un ministre, une ministre, n'ont pas toujours écrit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont dégoté dans les coulisses. Et donc, on se disait, mais au fond, toute cette matière, on pourrait la faire vivre par des évaluations, avec en plus une cote pour attirer aussi l'attention du lecteur qui va évidemment se demander, comme nous, qui est busé et qui a réussi.
Par ailleurs, c'est aussi un exercice de démocratie, puisque quand un gouvernement entre en fonction, il s'engage auprès des citoyens, via un accord de gouvernement, à réaliser une série de projets, à adopter une série de mesures. C'est aussi le moment, en fin de parcours, de mesurer ce qui a réellement été fait. C'est un petit peu dresser le bilan des équipes et des coalitions.
Au niveau de la méthodologie, comment avez-vous procédé ? J'imagine que ça s'est fait en plusieurs étapes.
Oui, donc dans une première discussion en collective au sein de la rédaction, on a défini des critères. Donc ce n'est pas la première fois que Le Soir délivre des bulletins, on l'a déjà fait lors de précédents gouvernements. On s'est reposé la question de savoir si on devait revoir nos critères, on les a légèrement revus. Et donc en fait, les ministres du gouvernement fédéral, ainsi que ceux des entités fédérées dont Bernard vient de parler, sont évalués sur la base de 5 critères qui sont pondérés. Le critère qui pèse le plus dans la cote, c'est ce dont je viens de parler, à savoir le respect de l'accord de gouvernement. On reprend méthodiquement tout ce que le ministre avait dans sa feuille de route et on voit s'il a exécuté tout ou partie de cette feuille de route. Ça lui vaut des points sur 40 points. Ensuite, forcément, une législature, c'est aussi de l'imprévu. Il y a eu énormément d'imprévus ces dernières années. Il y a eu le gouvernement fédéral est entré en fonction pendant la pandémie. Et puis il y a eu forcément la guerre en Ukraine avec toutes ses conséquences, la crise énergétique, l'inflation, etc. Et donc ça a impacté plus ou moins tous les ministres à des degrés divers selon les compétences. Ça c'est de nouveau 20 points. Et puis on cote aussi la capacité à nouer des compromis, puisqu'en Belgique il y a rarement un accord sans compromis. On cote aussi la vision stratégique, puisque les ministres ils sont censés non seulement gérer le quotidien, mais également penser au-delà de la législature et avoir quand même une stratégie à moyen terme. Donc on évalue ça aussi. Et enfin, il y a une cote pour la communication. Mais je vais laisser Bernard en parler puisque c'est davantage ses équipes qui ont travaillé là-dessus.
Oui, la communication, c'est évidemment très important. Pour il y a un ministre dans le passé me disait, c'est Didier Reynders, je ne vais pas le cacher, il me disait un bon ministre doit non seulement arriver à faire passer ses mesures, mais aussi à les vendre en fait. Et donc effectivement, pour que le citoyen sache ce qu'un ministre et la citoyenne sache ce qu'un ministre ministre a fait, c'est bien qu'il puisse communiquer. Alors, on a été un peu plus en profondeur dans cette édition-ci que dans le passé, parce qu'on s'est dit, non seulement il y a la communication médiatique, mais il y a aussi la communication auprès du citoyen et de la citoyenne, justement. Donc, on a aussi donné un bonus à celles et ceux qui se sont mouillés, qui ont été sur le terrain, qui ont été dans les associations, qui ont vraiment dépassé la communication minimum syndicale pour aller au contact avec les électeurs et les électrices, parfois en confrontation même. Tout ça a été globalisé dans une cote. Et un point important aussi dans la communication qui nous tenait particulièrement à cœur pour le fédéral et Bruxelles, c'est la connaissance de la langue de l'autre. Donc on a aussi évalué la connaissance du néerlandais par les francophones et du français par les flamands.
Avec un critère quand même assez clair, c'est qu'on a estimé, donc la communication c'est sur 20 points, parce qu'on estime que c'est quand même extrêmement important que comme vient de le dire Bernard, que les ministres puissent communiquer clairement aux citoyens ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas et pourquoi, c'est très important. Donc c'est sur 20 points, mais de ces 20 points, il y a 5 points pour la connaissance de la langue de l'autre. Alors forcément, l'exemple parfait, c'est sans doute Alexander De Croo, qui est parfait bilingue et qui peut faire jusque des blagues dans les deux langues sans aucun souci. Ça vaut 5 points. Dès lors où la ministre est capable de s'exprimer sur les plateaux télé dans l'autre communauté linguistique, c'était 4 points. Et en dessous, ça valait moins. Celles et ceux qui se contentent d'essayer de lire les notes dans une langue autre que la leur n'auront forcément pas beaucoup de points en plus.
On peut imaginer qu'en tant que journaliste, c'est assez dur de rester objectif. Les notes données sont-elles donc débattues, rediscutées avec d'autres collègues avant d'être publiées, peut-être pour éviter des jugements trop sévères ou trop sympathisants ?
Oui, c'est très important et c'est la principale difficulté de l'exercice, évidemment, c'est d'arriver à être le plus, j'allais dire, honnête en fait, possible, le plus objectif possible, parce qu'on peut avoir différents biais, on peut avoir tout simplement une façon de voir les choses différentes. Quelqu'un peut trouver qu'un bon ministre mérite 18 sur 20, quelqu'un trouve qu'un bon ministre c'est 16 sur 20, donc il a fallu globaliser tout ça. Donc on a travaillé en plusieurs temps. D'abord, les journalistes des différents pôles ont débattu, donc le pôle économie, le pôle pouvoir, le pôle international, ont débattu entre eux sur la cote des ministres, et puis on a organisé une grande délibération après, justement pour qu'on ait tous la même grille d'évaluation en fait. Et finalement, on est arrivé à des compromis, donc c'est vraiment un débat entre nous. C'est pour ça que c'est un exercice humain. Je ne vais pas dire que c'est un exercice subjectif, parce que je pense qu'on a mis suffisamment de balises pour que ce soit plus que ça, mais ça reste un exercice humain, donc il peut effectivement y avoir parfois des appréciations qui divergeront par rapport à ce qu'un lecteur ou une lectrice va penser, mais grâce à la méthodologie, grâce à la délibération et grâce, je pense, à l'honnêteté intellectuelle qu'on y a mis, normalement, on est le plus proche de l'objectivité que ce qu'on pourrait être.
Il faut savoir que pour la délibération du gouvernement fédéral, on a mis 6 heures pour coter les 18 personnes que l'on a cotées, et on s'était par ailleurs adjoint les services d'un collègue qui était resté tout à fait absent de tout le processus jusque-là, pour qu'il s'assure que le débat reste toujours sur les mêmes bases. Et les bases, quelles sont-elles ? C'est qu'on estime qu'un ministre qui a 60 sur 100, c'est quelqu'un qui a fait son travail honorablement. C'est la fameuse satis que connaissent les étudiants. Et forcément, si on va au-dessus, c'est mieux. En dessous, ça veut dire qu'il y a clairement matière à amélioration. Et en dessous de 50 sur 100, c'est que le travail était insatisfaisant, bien évidemment. J'ajoute que on n'est pas les seuls à faire ça. Nos collègues du Standard ont fait pareil exercice. Et donc, nous publierons aussi dans notre bulletin les cotes du Standard, qui sont souvent semblables, parfois divergentes. Et on expliquera aussi pourquoi leurs cotes sont celles qu'elles sont. Voilà.
Eh bien, merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
À travers notre série Rêve Olympique, on vous propose de découvrir le quotidien de plusieurs athlètes, qualifiés ou en passe de l'être, pour les Jeux Olympiques de Paris. Ce matin, direction Crisnay, en région liégeoise, pour partir à la découverte non pas d'un ou d'une athlète, mais d'une famille entière, famille qui baigne dans la natation depuis toujours. Chez Léon Vaux, je demande donc le père, André, ancien nageur et aujourd'hui entraîneur.
Et donc, il fallait être au souper. À 6 heures, la famille était à table. Il n'était pas question de dire « moi je vais aller nager, c'est quoi ça aller nager ?»
La mère, Else, est aussi une ancienne nageuse et ancienne coach.
Quand ils ne sont pas là, j'aime bien les 3 premiers jours. parce que j'ai le temps de ranger la maison, il n'y a rien qui traîne, comme j'aime bien, c'est super. Mais après 3 jours, je deviens déjà folle.
Le fils, Lucas, qui s'alignera à Paris sur 200 mètres et 400 mètres nage libre.
Alors tu parles de ça pendant 3 minutes, et c'est... dis d'ailleurs l'entraînement de ce soir. Et si on faisait un peu plus de jambes, hein, oui, un peu plus dur le temps de départ pour moi. Oui. Et donc c'est très facile de l'avoir quand même.
Et enfin la fille, Camille, qui a raté de peu une qualification pour Paris, mais qui ne désespère pas pour les prochains Jeux.
Quand on est rentré dans le groupe, on s'est bien rendu compte de la manière dont ils nous entraînaient, qu'il n'y aurait pas de traitement de faveur.
Pierre Fagnard les a rencontrés chez eux avec Philippe Van de Weyer, spécialiste des sports olympiques, et Dominique Duchesne, photographe. Ils ont commencé la discussion en leur demandant si, pour eux, une journée sans nager, c'était une journée perdue.
Bof, on a le dimanche où on s'entraîne pas, mais sinon, ici par exemple, moi je vais avoir une semaine où je suis censé pas nager, bah je sais que j'irai nager 3-4 fois quoi. Mais sinon non, enfin ça va, on a le dimanche, il est bien sacré, on nage pas et on est quand même content d'avoir un peu de repos. Je sais pas, tu penses la même chose quand même?
Moi ça me fait du bien quand même parfois de pas nager, mais c'est vrai que par exemple en été on est censé avoir un mois de repos complètement off de la natation, mais on finit toujours après au moins une semaine et demie, 2 semaines à y retourner quand même un peu, jamais très intensivement, mais juste pour parce qu'on aime être dans l'eau quoi. Et puis aussi juste les sensations d'être je trouve que c'est quand même assez agréable d'être dans l'eau.
Je pense aussi qu'on est, enfin, on est des fans de l'exercice physique, quoi. Et vu qu'on bah, n'aime pas courir, on n'aime pas aller rouler à vélo, quoi. Enfin, parfois, en été, on va rouler à vélo, mais nous, quand on est dans l'eau, on se sent bien, on a des bonnes sensations de glisse et tout ça, et donc c'est quand même beaucoup plus fun que d'aller courir,
surtout,
quoi.
Toi, t'es super excessif, donc quand tu vas aller rouler, tu vas vouloir rouler le premier jour déjà sans borne, et puis pas savoir marcher pendant 2 jours, mais il a fait sans borne, il a fait une descente à du 60 à l'heure, c'était bon.
André, comment est-ce que toi tu es venu à entraîner en natation?
Ah ben chez moi, parce que j'étais nageur, donc à partir de 16 ans, c'était il y a très longtemps, au siècle dernier, je ne dirais pas avant la guerre, mais on allait nager à l'époque, j'habitais à Liège, au bain de la Sauvière.
Et comment est-ce que tu es devenu entraîneur de natation?
Je suis rentré à Ouarem où il y avait un club qui s'appelait les Vedettes 116. Et tout de suite, je suis venu et voilà, j'ai pris un groupe de bons petits nageurs. Là, je les ai rassemblés. J'ai dit, allez, on va venir. J'étais jeune, j'avais pas 30 ans. Et alors, j'ai fait affilier le club à la fédération. Donc, on a pu commencer des compétitions. Donc, j'ai amené le sport de compétition à Ouarem.
Donc, on est là dans les années 70.
Au milieu des années 70.
Et vous êtes forcément rencontré autour d'un bassin.
Oui. J'avais connu ma femme qui était l'amie d'une de mes meilleures nageuses, Jessie Mievis, et puis après elle a disparu pendant des années parce qu'elle a fait ses études à la VUB, et puis elle est revenue comme coach, et puis alors là.
Entraîner tes deux enfants, c'était une évidence?
C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mon Dieu, avec Camille, on s'aime, il y a parfois un peu de la haine, hein, de part et d'autre, mais ça je considère que c'est le dernier stade de l'amour. Par contre, entraîner Lucas, quand il est tout seul, pour moi c'est presque impossible. On a des garçons qui ont 18, 19, 20 ans ici, et bon, là ça passerait bien, que du contraire, c'est un plaisir de l'entraîner, mais il faut qu'il soit entouré par 3-4 partenaires un peu moins forts que lui, mais ça va. Pourquoi? Sinon c'est impossible, parce qu'après 2 jours, on va se battre.
Tu peux m'expliquer pourquoi, Lucas?
Bah, j'en ai déjà parlé, mais c'est j'attends énormément de moi-même, et j'attends parfois un peu trop de papa, mais sur des trucs bêtes, quoi. On va faire 20 fois 100 en endurance, s'il prend pas mes temps à chaque 50, parce que je me dis, bah voilà, il y a que moi qui nage, il peut bien prendre mes temps à chaque 50, à chaque 25, compter mes coups de bras, les noter, comme maman fait quand elle m'entraîne. Et papa, tu m'emmerdes avec ça, quoi. Tu regardes, tu nages une 8, une 9, c'est bien quoi. On va pas venir. Et moi ça m'énerve. Et puis je lui demande de prendre mes fréquences et de regarder ma technique et de prendre une vidéo et alors là
je téléphone au brasseur en disant il faut autant de tonneaux, autant de casiers. Voilà. Et là on devient fou tous les deux.
Si il est pas tout seul, vous dites s'il y a d'autres gens c'est plus facile. Mais s'il y a d'autres gens, il peut pas prendre les fréquences, il peut pas prendre les temps non plus.
Mais c'est juste que j'en attends beaucoup moins de lui parce qu'il y a d'autres gens et que c'est plus une dynamique de groupe.
J'avais quand même une question moi avant, parce que maintenant j'ai compris que vous aimiez vraiment bien ça, mais au moment de se lancer, au moment de se dire allez moi mon sport c'est la natation, vous avez le choix ou vous avez pas le choix?
On a dû apprendre à nager, ça c'était non négociable. Puis je pense qu'on est très compétiteurs. Et vu que papa et maman nous ont quand même un peu bercés dans l'univers de la natation de compétition, à regarder. Enfin, moi par exemple, quand j'avais 6 ans, et papa est allé commenter les Jeux Olympiques à Londres, aller commenter des championnats d'Europe, des championnats du monde. Donc, on avait quand même un rapport avec le sport de compétition qui était assez grand, et vu qu'on aimait vraiment bien ça et qu'on avait quand même un peu de talent pour ça, je pense que c'est pour ça qu'on a accroché avec le sport. Maintenant, moi j'avais mon grand frère qui en faisait et qui aimait ça au début, et donc c'est pour ça que j'ai un peu voulu suivre le mouvement quoi.
Moi quand j'étais petit, c'était
d'autres sports aussi.
Moi quand j'étais petit c'était mon rêve, je nageais, il y avait Yoris Grandjean, Pierre-Yves Romanini, Glenn Surgelot, enfin tous les meilleurs nageurs belges que moi je voyais. J'avais l'impression qu'ils mesuraient 2m10 alors que maintenant ils m'arrivent à l'épaule et qui étaient là qui nageaient à la piscine de Crisney. Je courais en revenant de l'école primaire qui était à côté pour aller les voir nager. Je regardais, papa disait les temps, moi je notais sur une feuille.
Une vraie passion quand même.
Ouais, quand même. Et enfin pour moi c'était des stars quoi. Yoris c'était 2007-2008, c'était vraiment une star et je le voyais tous les jours, je lui parlais, enfin c'était génial quoi.
Il était un peu le petit frère de tous ces mecs.
Ouais, on partait en stage à Città del Mar en Sicile, papa me prenait avec. Après l'entraînement, il jouait au volley, il me lançait au-dessus. Il me jouait au volet avec moi.
Le ballon, hein. Lucas était le ballon.
J'étais le ballon, quoi. Pour moi, c'était vraiment. C'était mon rêve d'être comme ces gars-là, quoi. Et puis après, quand ces gens-là sont partis et que je ne les voyais plus, et que moi, à 12, 13, 14, allez, 13, 14 ans, je commençais à nager les matins et tout ça, et que je jouais au golf, là j'en avais vraiment marre de nager, quoi. C'était plus. Je voulais plus nager, quoi. J'avais plus ces idoles que je côtoyais tous les jours, et je m'amusais beaucoup mieux sur un terrain de golf à l'époque, parce que j'avais beaucoup d'amis. Au golf avec qui je m'entraînais, avec qui j'allais jouer, et au niveau de la natation je m'entraînais tout seul, c'était vraiment pas le même plaisir quoi. Et du coup c'est là que j'ai arrêté de nager jusqu'à mes 20 ans quand papa a repris ce nouveau groupe, cette nouvelle génération de laquelle ma soeur fait partie, et que là j'ai recommencé à m'entraîner avec un groupe beaucoup plus jeune mais dans lequel je trouve beaucoup de plaisir quoi.
Quelle a été la réaction de la famille quand Lucas a arrêté?
Je crois que papa était quand même déçu.
Oui, j'étais déçu, mais par contre, on l'a encouragé au golf, on l'a laissé partir. Il est parti en Espagne, il est parti aux États-Unis. On a contribué, on n'a pas regardé, on l'a encouragé. Il voulait devenir Tiger Woods, donc finir millionnaire ou milliardaire, et nous acheter une belle
villa au Portugal. J'attends toujours.
Il nous avait promis ça. Il était fou aussi avec le golf, comme il l'a été pour la natation.
Quand Lucas a arrêté, Camille, tu étais un peu orpheline de ton frère?
Ou enfin c'était une libération parce qu'enfin il n'était plus là.
Non. Mais ça m'a un peu déçu. Enfin, pas déçu. J'étais pas déçu que lui ait pris cette décision. C'était juste que j'avais plus vraiment de personne à qui regarder. Par contre, ce qui m'a plus déçu, c'est qu'il a vraiment tout voulu donner pour le golf. Et j'avais comme un pressentiment que ça allait pas trop aller. Mais il avait l'air tellement confiant que je voulais pas être méchante avec lui et je voulais pas lui dire, Lucas, c'est un peu.
J'ai pas tous tes œufs dans le même panier.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ça me rendait un peu malheureuse parce que je voyais qu'il s'entraînait vraiment beaucoup, il s'intéressait énormément, mais c'était juste pas fait pour lui, je pense. Il a pris du temps pour s'en rendre compte. Donc, c'est juste ça qui me. je voyais qu'il était un peu malheureux, il se demandait pourquoi ça fonctionnait pas, et donc ça c'était un peu triste, quoi.
C'est vous un peu qui l'avez incité à revenir à la natation?
Alors je me rappelle d'un stage où on était à Lanzarote et Lucas était venu 5-6 jours.
J'étais venu en fait parce que il y avait deux groupes d'enfants et les coachs devaient rester jusqu'au bout et il y avait personne pour ramener les enfants de 12 ans en Belgique, quoi. Et du coup, j'étais venu pour 5 jours.
5 jours.
Ouais. 5 jours à Lanzarote.
Tu avais joué au golf.
Où j'avais joué au golf. Ouais. Mais pour ramener.
Tu avais 19 ans à l'époque.
Moi, j'avais 19 ans. Ouais.
Et alors je me rappelle bien qu'il était venu nager avec nous, mais il était. C'était plus du tout un athlète, genre il savait vraiment plus nager, quoi. À la fin des 5 jours.
J'avais fait des séries contre Alizé Pizane et je me faisais mettre, mais des. Alizé était mais 1000 fois plus forte que moi, quoi.
Ouais. Et je me rappelle qu'il avait fait, on avait fait une série de 50 mètres. C'était 60 fois 50, meilleure moyenne possible, départ 1 minute 5, je me rappellerai jusqu'à la fin de ma vie. Et alors, je me rappelle qu'il avait nagé, et si on prend un peu de perspective, c'est extrêmement nul ce qu'il avait fait, vraiment. Mais enfin, nous, j'avais 14.
13 ans.
13 ans. Donc, moi, j'étais en perspective aussi complètement nulle.
Il avait nagé
29 au dernier 5 ans, donc en dessous des 30 secondes. Et j'avais trouvé ça fabuleux. Et tout le monde était là. Tout le monde était là en mode, mais c'est dingue. Il est vraiment fait pour ça. Et je pense qu'il a eu un peu un petit excès de confiance. Et il s'est dit, c'est le moment un peu de m'y remettre. Et je pense qu'on a tellement. En plus, on avait vraiment envie qu'il recommence, donc on l'a un peu repoussé dedans et il a vite mordu à l'hameçon.
Jusque janvier 2021, j'ai jamais mis la natation en priorité, quoi. Si j'étais au golf et qu'il y avait entraînement, j'avais envie de continuer à jouer au golf, je joue au golf, quoi. Si j'étais à l'UNIF, j'allais pas rater un cours pour revenir plus tôt pour aller jusque janvier 2021.
Moi, je me souviens très bien d'un jour lui avoir dit. Dis Lucas, maintenant que t'es grand comme ça, tu ne te demandes pas comment tu pourrais nager vite maintenant avec le corps de nageur que tu as. Il m'a venu, oh non, je m'en fous. Ouais.
Ici, ça fait deux championnats consécutifs où vous êtes partis pour la première fois, enfin ensemble, au championnat d'Europe en petit bassin en décembre, ici au championnat du monde à Doha. Qu'est-ce que ça génère comme émotion, partir ensemble?
Du stress, beaucoup de stress.
Plus de stress que de plaisir.
Mais en fait, je suis beaucoup plus stressée et anxieuse quand lui nage que quand moi je vais nager. Parce que c'est. Déjà, je pense que vu qu'il est quand même encore un peu un autre niveau, il y a plus de pression quand on est dans une finale comme ça mondiale qui est très disputée parce qu'en plus pour le moment dans les courses qui nagent il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde et en plus il nage pas vraiment de la même manière que les autres, il gère pas vraiment ses efforts de la même manière je trouve et donc parfois il se fait rattraper et puis après il les dépasse d'un coup et puis il a plus de vitesse que les autres, du coup je me mets à pleurer parce que je crois qu'il va faire n'importe quoi et en plus je suis sensible donc ça, les émotions elles prennent vite le dessus mais sinon c'est chouette de pouvoir en apprendre beaucoup de son frère qui en plus il n'y a que de la bienveillance quoi. Donc ça fait du bien d'avoir son frère avec qui on peut parler, qui peut nous motiver avant nos courses et tout. Mais ces courses, par contre, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, quoi.
Mais ils ont toujours été super fusionnels, tous les deux. Depuis toujours, depuis que Camille est née, la personne la plus importante aux yeux de Lucas, c'est elle.
Ouais.
C'est Camille, c'est son humain préféré, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais non, ils sont comme ça. Ils sont, même s'ils savent vivre séparés parce que lui a ses projets, elle a ses projets, mais ils ne sont jamais, jamais séparés. Ils sont tout le temps, ils sont super fusionnels, ils ont besoin l'un de l'autre. Et ce que l'autre fait est toujours dans le bien fondé pour son frère ou sa sœur. Et ça, en tant que parent, c'est magnifique de voir ça. De voir qu'ils partagent la même passion et qu'ils vont au bout des choses. C'est ça qui est super.
Finalement, malheureusement, ne pas aller au jeu ensemble, ça va être... ça va être difficile, Camille. Tu t'étais fait un peu à l'idée, peut-être il y avait moyen.
Ben, je ne l'ai jamais vraiment dit parce que je n'aime pas vraiment afficher quand il n'y a pas une certitude à 100%. J'aime pas, même si c'est un objectif, je n'aime pas vraiment le dire tout haut. Mais c'est sûr que quand pendant 2 ans, on parle un peu d'un projet comme olympique, il y a toujours dans le coin de notre tête cet objectif-là. Et en fait, après la course, directement après la course, j'ai vu que j'avais fait quand même une course correcte sur une grande compétition quand même. Pour sa première grande compétition, c'est difficile d'arriver la première fois et de bien performer. Donc j'étais satisfaite de ma course personnellement, mais évidemment j'étais déçue du résultat collectif. Mais je pense que j'ai pas tout de suite réalisé qu'on allait pas y aller, quoi. J'étais un peu encore dans l'optique qu'on était toujours dans la compétition, il y avait encore la fin du championnat, on allait regarder les autres nager, donc j'ai pas trop réalisé. Et puis c'est vrai qu'après, quand je suis rentrée à la maison, ça fait un peu mal au cœur de se dire qu'un objectif qu'on a depuis, un rêve qu'on a depuis qu'on est toute petite, ben on doit le reporter 4 ans plus tard, surtout pour une fille qui est jeune comme moi, qui, quand je me vois il y a 4 ans, j'ai l'impression que ça fait que il y a tellement de choses qui se sont passées, et là se dire que c'est dans 4 ans, ça paraît vraiment très loin, alors que quand on y pense, Lucas, Valentine, ils vont avoir 24 ans cette année et ils vont à leur premier jeu, mais pour moi je me dis, ils ont toute la vie devant eux, quoi. Alors que, bah, si je vais dans 4 ans au jeu, j'aurai 2 ans de moins que ce qu'ils ont pour le moment, quoi. Mais c'est juste que c'est vrai que on travaille très dur, et quand ça se fait à une toute petite, c'est pas beaucoup, une seconde sur une course de 8 minutes, quoi. Donc c'est dommage. Maintenant, j'en veux à personne, et je vais clairement passer au-dessus de ça, mais c'est juste que ça fait un peu mal au cœur, quoi. Mmh.
Et Lucas, ça aurait été différent, vivre tes premiers jeux avec ta sœur?
Oui, je pense que ça aurait été différent. On a eu une bonne conversation hier à propos de ça, et ce que je lui expliquais, c'est voilà, c'est une fois tous les 4 ans, mais c'est aussi ce qui fait la beauté des Jeux, quoi. S'il y avait des Jeux Olympiques tous les 6 mois, ce serait pas la même chose. C'est ça qui fait que la médaille est plus spéciale qu'une médaille au championnat d'Europe, que la médaille est plus spéciale qu'une médaille au championnat du monde, parce que voilà, c'est le Graal, et voilà, c'est le rêve d'une vie pour beaucoup, et ça aurait été incroyable d'y aller avec... Avec Camille. Moi, je suis persuadé qu'elle peut toujours se rapprocher des temps individuels. Après, ça n'aurait pas changé quelque chose au niveau de ma préparation, au niveau de la façon dont je vais gérer mon championnat, mais au niveau on aurait une connexion, une expérience incroyable ensemble, là-bas au jeu, surtout si peut-être papa est sélectionné, ça aurait été fantastique, quoi. Mais bon, il y a des jeux dans 4 ans et 5 mois, et j'espère que Camille va garder son amour pour la natation comme elle a maintenant. J'espère que moi, dans 4 ans, j'aurai pas des épaules des épaules en béton et que je serai encore nagé, mais que je pourrais peut-être me qualifier pour mes deuxièmes jeux et qu'on pourrait aller là-bas ensemble, quoi, parce que ouais, ce serait génial.
Troisième en golf.
Et puis le troisième en 2032 en golf.
Quel a été votre rôle là-dedans?
Moi, je reste toujours en retrait. J'observe beaucoup. J'ai la chance d'avoir connu la vie de nageuse, d'entraîneur et celle de parent de nageur. Et le rôle le plus difficile, c'est celui de parent, parce que c'est le seul où tu gères rien du tout. En tant que nageur, ton travail est récompensé ou pas. En tant qu'entraîneur, c'est la même chose. Et tous les bons moments, tu les partages quand même avec les athlètes. En tant que parent, les bons moments, les nageurs le partagent avec l'équipe, avec l'entraîneur. Mais les mauvais moments, avec la maman qui reste en retrait. Donc il y a souvent quand même beaucoup d'émotions, même en le disant. Et ça, c'est dur de voir qu'elle est déçue, qu'elle est triste et qu'elle fait tout pour. Mais je sais qu'elle va se relever et que ça va très bien aller par après. Donc il n'y a pas de souci.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi matin. Merci de nous avoir écoutés, et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une pluie d'étoiles sur toutes les plateformes de podcast. À lundi.